L'homélie de ce week-end vous est présentée par le père Bertrand Cormier, prêtre du diocèse de Cahors.
De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile de saint Matthieu, quand Jésus gravit une montagne, c'est pour donner un enseignement d'une importance particulière, ce qui n'est pas sans rappeler la montagne du Sinaï quand Moïse a proclamé les 10 commandements, les 10 paroles. La montagne, notre sœur et mère la terre, comme nous rappelle le pape François, va donc porter celui qui est la parole de Dieu en personne, Jésus. Elle va enfanter cette parole de Dieu par Jésus et en Jésus. Lorsque Jésus s'assoit, ce geste est lourd de signification. C'est la position du docteur, de celui qui enseigne en maître. Jésus, au moment de son dernier discours, le dira à ses disciples : « Vous m'appelez maître, et vraiment, je le suis. » Alors Jésus ouvre la bouche et il enseigne. Dieu le Père n'a pas envoyé Jésus seulement pour vivre comme nous, au milieu de nous. Il ne l'a pas envoyé non plus uniquement pour guérir les malades, chasser les démons, etc. Très souvent dans les évangiles, Jésus enseigne, en lien d'ailleurs, avec une ou des guérisons. Il ne veut pas qu'on le confonde avec un simple guérisseur. Si sa parole guérit, c'est parce qu'elle agit sur la réalité, de même que Dieu a créé par sa parole. Dieu dit « et cela fut ». Dans le premier chapitre de la Genèse. Jésus est la bouche du Père, sa voix, sa résonance. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, Jean chapitre 8. Comme par le passé au bord du lac de Tibériade, soyons donc particulièrement attentifs à l'enseignement qui va suivre. Chaque mot, chaque parole peut nous guérir et nous sauver. Nous célébrons les saints ce week-end, ceux qui sont déjà sauvés, c'est-à-dire qui ont déjà passé la mort et le jugement personnel qui les a fait entrer définitivement dans la lumière infinie, dans l'amour divin que chaque être espère pour lui-même et pour les autres, mais surtout dans le bonheur qui ne finira pas. Heureux les pauvres de cœur. La parole de Dieu commence par établir que le bonheur se trouve en Dieu et nulle autre part. L'apôtre nous parle, en la première lettre à Timothée, chapitre 1, de l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui lui a été confié. Mais ce passage nous montre en même temps que Dieu veut nous communiquer son bonheur, ainsi que tout ce qui le constitue, car il nous parle de l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. C'est une bonne nouvelle qu'il nous annonce. Ce qui constitue son bonheur, c'est sa gloire, c'est-à-dire l'ensemble de ses perfections. Justice, sainteté, amour, grâce, manifestés pour que nous en soyons revêtus dans la personne et l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Nous pouvons déjà réaliser ces choses, car la reproduction du caractère de Christ est notre bonheur. Mais nous entrerons dans la plénitude de cette réalisation uniquement lors de l'apparition de notre Seigneur Jésus. laquelle le bienheureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent, montrera en temps voulu. Première lettre à Timothée. Si on traduit le mot « heureux » du grec, langue du Nouveau Testament, si on le traduit en araméen ou en hébreu, ce qui correspond à peu près à la même chose, la langue de Jésus, on peut le traduire en français « en marche ». Si nous recevons le bonheur de Dieu, si nous sommes invités à le développer tout au long de notre vie chrétienne, nous savons que nous n'y parviendrons parfaitement qu'après notre Pâques, notre mort. Peut-on posséder le royaume ? Le royaume des cieux est à eux, dit Jésus. Comme on possède un objet, une chose ? Non, bien sûr. Mais si on compare le royaume à la terre promise à Moïse et au peuple hébreu, on comprend mieux. Dieu avait promis qu'il donnerait cette terre à Israël pour qu'il en prenne possession. La différence avec Jésus, c'est que ce royaume n'est pas situé dans un espace donné, Israël, la terre promise, mais dans des personnes heureuses, et heureuses selon différents critères que Jésus nous donne, critères ou vertus, pour être plus religieux, qui ne sont pas les nôtres. Par exemple, les pauvres par l'esprit, traduction littérale, de qui s'agit-il ? Je repense à Alban, femme dite trisomique avec un syndrome autistique, c'est-à-dire incapable de dialoguer avec nous. Et pourtant, tout le foyer où nous vivions la respectait, et elle permettait de donner une ambiance très particulière à notre groupe, constitué de personnes dites handicapées et de personnes donc qui les accompagnent. La plus pauvre tournait les regards vers elle sans les capter, sans nous posséder, et nous évitait de nous opposer les uns aux autres. Tous, nous étions en communion pour qu'elle se sente en sécurité. Pour Jésus, elle est heureuse, c'est-à-dire que son bonheur était de vivre et de nous faire vivre déjà quelque chose de ce royaume des cieux. Ce n'était que des moments, il ne faut pas trop rêver, mais ils étaient précieux, riches de promesses de bonheur pour tous en Dieu. Heureux ceux qui pleurent. Saint Paul nous dit que le chrétien pleure avec ceux qui pleurent. Jésus a pleuré sur Jérusalem, c'est-à-dire sur notre monde en chemin vers son salut avec toute la création. Beaucoup pleurent ces temps. Parce qu'ils ont perdu leur travail, parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils se sentent seuls. Mais Jésus, ici, parle de ceux qui pleurent pour les autres. Ainsi, nous pouvons pleurer sur nous-mêmes, comme beaucoup de nos frères et sœurs humains, mais nous sommes appelés, en vrais disciples du Christ, à pleurer aussi avec et pour les autres. Voici une autre vertu des membres du royaume. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Le terme « doux » dans l'Ancien Testament ressemble au terme « anawim » qui veut dire « humble » ou « pauvre ». Au psaume 37, il est dit que les humbles posséderont la terre, réjouis d'une grande paix. Et au verset 29, les justes hériteront la terre et vivront à jamais. Sans aucun doute, la ressemblance de ce psaume avec cette béatitude est évidente. Travailler la terre, jouer dans la terre, c'est curatif, aucune idée de violence. Des citations de l'Ancien Testament nous prouvent qu'il existe une tradition dans laquelle l'héritage de la terre devient le symbole de la jouissance tranquille d'un bonheur stable. La promesse réservée aux doux et aux humbles d'hériter de la terre, de posséder la terre, est la même que celle faite par Dieu à Abraham. Ce qui fait dire au pape François dans Laudato Si, la terre est essentiellement un héritage commun dont les fruits doivent bénéficier à tous. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Toujours dans Laudato Si, le pape nous dit « En lui, on voit à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société et la paix intérieure, tout ce qu'on vient de se dire déjà. » Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. D'après le pape, il y a 14 œuvres de miséricorde, 7 corporelles et 7 spirituelles. Les premières reprennent les indications des évangiles, notamment au chapitre 25 de saint Matthieu, « Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Sont heureux et donc vivent le royaume des cieux ceux qui ne se contentent pas d'être miséricordieux, mais de pratiquer cette miséricorde. Et nous y sommes particulièrement invités pendant ce confinement. » Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. La pureté ne fait pas obstacle à la vision divine. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le bonheur du royaume n'est pas étranger à l'héritage d'une terre, sur laquelle les éléments naturels ne sont pas exploités au-delà de nos besoins réels, ni sur le dos des pauvres. Enfin, sur la persécution et sur le lien avec la justice, L'évêque de Rouen, en parlant du triple assassinat dans la basilique de Nice, rappelait ce matin dans la croix que nous pouvions vivre concrètement cette béatitude simplement parce que nous témoignons de notre foi en Jésus. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, conclut Jésus. Il ne suffit pas d'être heureux et que Jésus nous le dise, nous devons le manifester au monde. Si je suis heureux de ce bonheur qui prend sa source et sa finalité au-delà de la vie terrestre, cela ne peut que se voir.